8h, le journal d'Alexis Morel. Bonjour Alexis.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Après un week-end sous cloche, oseront-ils sortir dans la rue ? Les habitants de Kiev ne sont plus soumis ce matin au couvre-feu. La capitale ukrainienne tient, mais les chars russes ne sont pas loin. Nous rejoindrons notre envoyé spécial sur place. En quelques heures, cette crise en Ukraine s'est mondialisée encore un peu plus. Poutine brandit la menace nucléaire et les Européens annoncent de nouvelles mesures massives avec des livraisons d'armes et d'avions de combat aux Ukrainiens. Et c'est un tournant historique pour certains pays de l'Union, vous l'entendrez. Et puis il y a ces sanctions économiques sans précédent, avec déjà ce matin des conséquences à Moscou. Le rouble dégringole en bourse. Cette invasion russe, ses conséquences, on y revient avec votre invité aussi, Jérôme, à 8h20.
Oui, son pays a connu l'invasion russe en 2008. Elle demande l'adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne. La présidente de la République de Géorgie, Salomé Zourabichvili, invitée du grand entretien de la matinale. Vous lui posez vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
Dans ce journal aussi, la fin du masque aujourd'hui dans la plupart des lieux concernés par le pass vaccinal. Un dentiste marseillais jugé pour avoir mutilé des patients et escroqué la sécu. Et le très attendu rapport du GIEC sur l'adaptation au réchauffement climatique. Nous serons au Sénégal où c'est déjà une réalité.
France Inter.
Cela faisait 39 heures qu'ils étaient terrés dans leur appartement, leur cave, leur cage d'escalier. Les habitants de Kiev peuvent tenter ce matin de ressortir de chez eux. Depuis une heure maintenant, le couvre-feu est levé dans la capitale ukrainienne. Situation sous contrôle, assurent les autorités locales, même si de nouveaux tirs de missiles ont été entendus dans la nuit. Bonjour Omar Waman.
Bonjour Alexis.
En direct de Kiev pour Inter. Les rues étaient désertes ce week-end. Est-ce qu'on y croise un peu plus de monde depuis quelques minutes ?
Oui, il y a du monde dans les rues de Kiev, ce qui n'était pas arrivé depuis samedi, peu avant 17h, des habitants qui sortent enfin de chez eux, ou bien des abris anti-bombardement, sacs de couchage sous le bras, des bunkers souterrains qui datent de la période soviétique. La capitale en compte plus de 5000, ces habitants de Kiev qui vont pouvoir faire quelques courses, tenter pour beaucoup d'entre eux de quitter la capitale qui reste quadrillée par les forces ukrainiennes, alors que la nuit a été encore marquée par des sirènes d'alerte anti-aérienne qui ont retenti à plusieurs reprises par des bombardements russes. Selon l'armée ukrainienne, plusieurs assauts des forces de Moscou ont été repoussés cette nuit, même si elle reconnaît que l'armée russe a ralenti son offensive ces dernières heures. Une offensive qui se heurte à la résistance des forces ukrainiennes, des soldats mais aussi des civils prêts à mourir pour la défense de leur ville de Kiev.
Omar Waman, envoyé spécial de France Inter à Kiev avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. Et justement, vous le disiez, tous les deux, vous avez rencontré il y a quelques heures l'un de ces milliers de civils qui n'hésitent pas à prendre les armes pour défendre leur ville. Et c'est une tête connue en Ukraine, un député du Parlement, lui aussi déterminé à se battre jusqu'au bout. On écoute votre reportage, Omar.
Donc là, vous avez plein de balles, de munitions dans vos poches.
Yeah, I was saving it.
Oui, je les ai mises de côté.
À 26 ans, Sviatoslav Yurash est le plus jeune député de l'Ukraine.
Bonjour.
Depuis le début de la guerre contre la Russie, il est en première ligne, sa Kalachnikov en bandoulière.
I'm not a soldier.
Je ne suis pas un soldat.
But in times like this,
mais ces temps-ci,
everybody is a soldier.
Tout le monde est un soldat.
Sviatoslav Yurash est un proche du président Zelensky. Comme lui, il refuse de vivre dans une Ukraine soumise à la Russie.
My grandfathers were fighting for freedom.
Mon grand-père s'est battu pour la liberté.
My great.
Mon arrière-grand-père s'est battu pour la liberté. Il a combattu à Stalingrad.
From Stalingrad.
Contre les nazis.
Of course.
Bien sûr.
Told stories.
Il racontait ses histoires.
Was very proud of.
Il était très fier de ce qu'il a fait pendant la guerre.
Vous n'avez pas peur de mourir?
I'm afraid of Russians.
J'ai peur des Russes.
Coming
de les voir arriver ici, qu'ils prennent le contrôle de mon pays
destroying
et qu'ils le détruisent.
I was born independent Ukraine.
Je suis né dans une Ukraine indépendante.
I will die independent Ukraine.
Et je mourrai dans une Ukraine indépendante.
Cet ancien leader de la révolution de Maïdan de 2014 se dit prêt pour la bataille finale alors que les forces russes resserrent l'étau sur la capitale. Kiev, Gilles Gallinaro, Omar Waman, France Inter.
Ce député arme à la main à Kiev et l'espoir très ténu de pourparlers russo-ukrainiens. Ils ont pris du retard mais doivent commencer ce matin à la frontière biélorusse. Et Omar l'évoquait tout à l'heure, l'armée ukrainienne affirme, oui, ce matin que la Russie Russie ralentit le rythme de son offensive.
Une offensive plus difficile que prévu, peut-être ce qui conduit Vladimir Poutine à brandir une nouvelle menace.
La menace nucléaire, désormais clairement évoquée par le président russe. En face, quelle riposte occidentale ? Joe Biden s'entretiendra cet après-midi avec ses alliés pour unifier leur réaction, selon les mots de la Maison-Blanche. Sans attendre, Bruxelles hausse considérablement le ton. C'est une première, l'Union européenne va financer directement des livraisons d'armes et d'avions de combat à l'Ukraine. Nathanaël Charbonnier, ça y est, après les déclarations d'intention, l'Europe agit cette fois concrètement.
Ah oui, pour symboliser ce tournant majeur, il suffit d'entendre les mots de la présidente de la Commission européenne qui explique tout d'abord que l'Ukraine appartient à l'Europe et qu'ensuite l'Europe va financer donc l'achat et la livraison d'armes pour ce pays. Parallèlement, ce sont tous les pays de l'Union qui se mobilisent et qui annoncent l'envoi d'armes avec un inventaire impressionnant, des lance-roquettes pour la Suède, des fusils pour la Tchéquie, des munitions pour la Pologne, des mitrailleuses pour la Belgique ou encore des armes défensives et du carburant pour la France. Mais l'autre tournant majeur auquel on assiste, il a lieu en Allemagne, comme l'explique le spécialiste des questions de défense, Pierre Servant.
Si ce que faisait Vladimir Poutine n'était pas horrible, je dirais merci monsieur Poutine. Je ne sais pas si les auditeurs se rendent bien compte de ce que représente le changement de position allemand. C'est un changement historique. Depuis 1945, les Allemands sont dans une position militaire de quasi-neutralité. Donc là, ce qui change, c'est cette volonté allemande d'abord de réarmer, 100 milliards d'euros sur la table pour véritablement réarmer l'Allemagne. Vous verrez que dans les livres d'histoire, dans 10 ans, ça sera marqué comme un tournant majeur.
L'Allemagne qui s'arme, un tournant majeur, tout comme celui que pourrait prendre la Suisse. Selon son président, elle pourrait geler à son tour les milliards d'avoirs russes qu'elle détient.
Explication signée Nathanaël Charbonnier. Des livraisons d'armes, d'avions et des sanctions économiques chaque jour plus dures contre Moscou. Les 27 et le G7 se mettent d'accord pour geler toutes les transactions avec la banque centrale russe. L'ensemble de l'espace aérien européen est désormais fermé aux avions de la Russie. Sylvain Tronchet, vous êtes en direct de Moscou pour Inter. Est-ce qu'on voit déjà les effets de ces sanctions chez vous ?
La première conséquence, on la voit ce matin, c'est que le rouble a perdu 40% de sa valeur face au dollar. Et encore, la cotation n'ouvre qu'à l'instant à Moscou et elle a été repoussée à 15h locale pour le marché actions. On s'attend à de très fortes turbulences sur les marchés financiers. Le rouble était jusque-là soutenu par les interventions de la Banque centrale qui dispose de fortes réserves. Mais les sanctions ont coupé la Banque centrale russe de la moitié de ses réserves. La Banque centrale qui affirme qu'elle a les moyens de maintenir la stabilité du système financier. Ceci dit, on commence à observer d'autres conséquences. Les cartes de crédit étrangères ne fonctionnaient plus en Russie dans certains cas hier. Les cartes des banques russes ne fonctionnent plus à l'étranger. Et puis on a commencé à avoir des files d'attente devant les distributeurs. Beaucoup de gens recherchent des devises étrangères ici. Et puis ça a l'air anecdotique, mais cela dit quelque chose de l'isolement dans lequel le pays s'apprête à vivre. Les tours opérateurs russes ont annoncé qu'ils cessaient de vendre des voyages vers Cuba, la République dominicaine ou le Venezuela. Les touristes russes actuellement sur place vont être rapatriés.
Sylvain Tronchet, correspondant de France Inter en Russie, vous parliez du rouble. Sylvain, j'ajoute que ces sanctions et la crainte d'une crise énergétique font aussi bondir le cours du baril de brut. Il prend plus de 6% sur les marchés ce matin. La Russie, de plus en plus isolée économiquement et peut-être bientôt diplomatiquement. Une assemblée générale extraordinaire de l'ONU est convoquée cet après-midi à New York. Ce n'est arrivé qu'une dizaine de fois depuis la création des Nations Unies. Les 193 pays membres doivent se prononcer sur un texte condamnant l'invasion russe en Ukraine. Elle était silencieuse depuis jeudi. La FIFA annonce finalement quelques mesures contre Moscou. L'équipe russe de football devra jouer sur terrain neutre et sous bannière neutre lors de ses prochains matchs. Ça veut dire sans hymne ni drapeau. Mais pour l'instant, pas d'exclusion du prochain mondial, ce que dénoncent déjà certaines fédérations d'Europe de l'Est. À Paris, un nouveau conseil de défense est convoqué ce matin à l'Elysée. C'est le quatrième en une semaine. Il faut réévaluer la situation. Simon Le Baron, après les développements des dernières heures.
Asphyxier Poutine, le contraindre à un cessez-le-feu et le forcer à revenir à la table des négociations. L'objectif n'a pas changé, explique un proche d'Emmanuel Macron. Les nouvelles menaces nucléaires du président russe seraient même vues comme un aveu de faiblesse, la preuve que les plans du Kremlin ne se déroulent pas comme prévu. Voilà pourquoi l'Elysée, qui possède le seul bouton nucléaire de l'Europe des 27, a répondu par le silence. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avait déjà joué la rhétorique de la dissuasion il y a 3 jours, rappelant que l'OTAN était aussi une alliance nucléaire, la présidence française a cette fois choisi de ne pas surenchérir. De nouvelles sanctions sont malgré tout sur la table. Stéphane Séjourné, la voix d'Emmanuel Macron sur la scène européenne, réclame un blocus total, y compris commercial, de la Russie. Il soutient également une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'Union. Sanctions contre les Russes, soutien aux Ukrainiens, c'est donc à nouveau l'ordre du jour de ce Conseil de défense ce matin.
Et dans la foulée de ce Conseil de défense, le Premier ministre Jean Castex recevra lui cet après-midi les candidats à la présidentielle pour une réunion d'information sur cette crise ukrainienne. Voilà ce qu'on pouvait dire à cette heure sur les derniers développements en Ukraine. On y revient bien sûr dans quelques minutes avec votre invité, Jérôme.
Salomé Zourabichvili, présidente de la République de Géorgie, invitée du grand entretien à 8h20. Pour l'heure, il est 8h11 sur Inter. Voir un film sans le masque sur le nez, c'est désormais possible.
Oui, à partir de ce matin, fini l'obligation du port du masque dans les lieux soumis au pass vaccinal, sauf dans les transports publics. Sont donc concernés notamment les cinémas, les musées ou encore les théâtres. C'est le reportage de Stéphane Capron au Théâtre de l'Atelier à Paris.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Théâtre de l'Atelier. Je vais vous demander s'il vous plaît de bien vouloir garder votre masque couvrant la totalité de votre visage.
Cette annonce avant les représentations ne sera plus d'actualité cette semaine. Un soulagement pour tous les spectateurs.
On n'en peut plus du masque, regardez, ça me donne des boutons là sur le menton.
Ça va être libérateur, je pense. Ça marque peut-être un retour à la vie normale, à la vie d'avant le Covid.
On va enfin pouvoir respirer et voir les sourires et les expressions des spectateurs qui apprécient ou n'apprécient pas le spectacle.
Même chose pour les comédiens. Marianne Bassler joue en ce moment Huis clos de Sartre sur la scène du Théâtre de l'Atelier.
Je suis contente pour eux. Moi, quand je veux voir un spectacle, j'aime bien pouvoir respirer un peu.
Rose Berthet est la nouvelle directrice du Théâtre de l'Atelier. Elle reste prudente car le virus continue de circuler. Elle délivrera un message de prudence à son public.
Je pense qu'on va continuer de recommander le maintien du masque. Évidemment, ceux qui ne veulent pas le mettre ne le mettront pas. En revanche, je pense que ça peut aussi rassurer certaines personnes de garder le masque.
Car les théâtres sont encore loin de faire le plein, même si la fréquentation augmente avec les vacances scolaires. Une partie du public n'a pas encore repris ses habitudes d'avant la pandémie.
Et dès maintenant, vous retrouvez sur franceinter.fr l'ensemble des changements, des allègements du jour justifiés par la décrue de l'épidémie. Ce matin, moins de 2500 patients sont soignés en réanimation pour Covid. Il était à la tête de l'influent Institut Montaigne depuis plus de 10 ans. Laurent Bigorgne démissionne de son poste de directeur du Cercle de Réflexion Libérale. Cet économiste est soupçonné d'avoir drogué une collègue à son insu lors d'une soirée. Il sera pour cela jugé prochainement devant le tribunal correctionnel. Lui promettait à ses patients un sourire de star, mais beaucoup sont ressortis de son cabinet la bouche mutilée. Lionel Gage, ancien dentiste marseillais, est jugé à partir d'aujourd'hui pour violence volontaire et escroquerie. On l'accuse de s'être frauduleusement enrichi sur le dos de la Sécu en multipliant les poses de prothèses inutiles et bâclées. 10 ans après les faits, certains anciens patients en ont encore des séquelles. Ils sont plus de 300 à s'être constitués partie civile, Mathilde Vinceneux.
C'était le dentiste réputé du quartier. Il faisait la bise à ses patients. Myriam était au lycée quand elle est venue le voir pour une simple carie.
À 16 ans, je me suis retrouvée avec 11 dents taillées, 11 tiges, une pointe. Plus de sourire, plus rien. Vous regardez les photos, il n'y a pas une photo avec un sourire. Parce que j'arrive pas.
Myriam a dû travailler en plus de ses cours pour que le docteur lui refasse les dents qu'il avait lui-même abîmées. Sa mère, victime aussi, souffre d'infections, de mauvaise haleine. Son oncle, Aklim, 50 ans, a perdu toutes ses dents.
Tout le temps, je dois lever l'appareil devant mes enfants, le mettre à tremper pour le nettoyer. C'est catastrophique. Il m'a ruiné moralement. Moi qui aimais rigoler, qui aimais beaucoup parler. Moi, je suis poissonnier, je suis vendeur. Et là, c'est plus pareil. Là, mon visage, c'est plus le même.
Aujourd'hui, Aklim attend d'être indemnisé pour se payer des implants. Lionel Gage, lui, était le dentiste le mieux payé de France quand l'assurance maladie a porté plainte. 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, 70 patients par jour. Mais il a toujours nié avoir agi par profit, son avocat Frédéric Monneret.
On peut certainement lui reprocher des fautes qui caractériseraient l'imprudence, voire la négligence, mais certainement pas une action volontaire pour mutiler ses patients.
Lionel Gage comparaît libre aux côtés de son père qui travaillait avec lui. Ils risquent tous les deux jusqu'à 10 ans de prison.
raison.
Et la Sécu est aussi partie civile dans ce dossier. Le coût du préjudice pour l'assurance maladie est estimé à plus de 3 millions d'euros.
Comment se préparer et s'adapter au changement climatique?
Les experts climat de l'ONU doivent dessiner des pistes aujourd'hui. Deuxième volet très attendu du rapport du GIEC qui avait déjà dévoilé il y a 6 mois ses prévisions pour les prochaines décennies, plus 1,5 degré dès 2030. Certains pays sont déjà frappés de plein fouet et donc contraints de changer leurs habitudes, comme le Sénégal, où 40% de la mangrove a disparu depuis 1970. C'est le reportage de Théa Olivier dans le delta de Sine Saloum.
Les pieds dans la vase, Marianne Dong, mère de 6 enfants, s'inquiète de la disparition de la mangrove, menacée par la surexploitation, la sécheresse et l'augmentation des températures.
Sans la mangrove, notre village et nos populations allaient disparaître. La mangrove retient l'eau et permet de protéger notre village. C'est pour cela que l'on participe à son reboisement et à sa restauration, pour préserver notre travail et pour protéger nos habitations.
Les femmes qui vivent de la cueillette des huîtres sauvages ont abandonné les méthodes traditionnelles qui consistaient à couper les racines des arbres de la mangrove. Elles sont accompagnées à développer des activités génératrices de revenus plus durables, explique Mamadou Baroum de l'association intervillageoise de développement.
On s'est dit donc on va aller vers l'élevage des huîtres qui nous permettait de répondre à deux questions. Elles doivent générer de l'argent et doivent également régler un problème écologique. Il est prouvé que c'est une filière assez porteuse.
Un projet qui est appuyé par le Fonds international de développement agricole dont Semou Diouf est le chargé de programme au Sénégal.
Je pense que nous devons au niveau national, international, mettre en cours beaucoup plus de ressources d'investissement dans les activités d'adaptation au changement climatique.
S'adapter devient alors urgent, tandis que les mangroves disparaissent 5 fois plus rapidement que les forêts. À Dakar, Théa Olivier, France Inter.
Et c'est donc à midi que le GIEC doit dévoiler le deuxième volet de son rapport. Un troisième opus est attendu en avril, cette fois sur les moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Merci à vous Alexis Morel pour ce journal. La météo, Stéphanie Fromentin.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Stéphanie Fromentin, de belles couleurs dans le ciel aujourd'hui.
Et oui Jérôme, jaune et bleu sont de rigueur aujourd'hui sur une très large partie du pays. Le soleil résiste plutôt bien face aux assauts d'une perturbation peu active qui tente de pénétrer par le nord-ouest. À son approche, le ciel breton s'ennuage ce matin, mais la surveillance s'organise car les grisailles peuvent se mêler à des nuages d'altitude entre l'Ille-et-Vilaine et le Poitou-Charentes, peinant à dégager le ciel et pouvant faire croire à une journée maussade. Quelques grisailles s'accrochent aussi le long de l'Aquitaine, sur le sud du Massif central, ainsi qu'au pied des Pyrénées. Cet après-midi, même si de faibles pluies abordent le Finistère, les nuages se morcellent, les brouillards se délitent sous l'action des rayons d'un soleil bien franc qui offre au ciel toujours ses belles couleurs jaune et bleu.
Et cet après-midi, le soleil recharge aussi les batteries.
Oui, si au réveil l'atmosphère est encore bien fraîche, voire gelée dans l'intérieur des terres, les températures dépasseront souvent cet après-midi de 3 à 5 degrés les moyennes de saison, voire flirteront avec les 20 degrés dans le sud-ouest. Il fera 11 degrés à Lille, Nancy et Strasbourg, 13 à Brest, Cherbourg ou Paris, 15 à Rennes et Limoges, 16 à Nantes, Tours ou Marseille et 19 degrés à Bordeaux et Biarritz.
Merci Stéphanie, à tout à l'heure. 8h18, géopolitique.